Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, je reçois le docteur César Hansen Hansen, médecin généraliste urgentiste qui vient nous parler d'une enquête de l'IVI sur la santé mentale. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est l'IVI ?
Alors l'IVI, l'IVI en fait c'est un centre de santé qui est spécialisé dans la téléconsultation. C'est un des acteurs majeurs de la téléconsultation en France qui est notamment engagé dans la lutte contre les déserts médicaux et qui finalement vient proposer des consultations à des patients qui n'ont pas accès en temps et en heure à un médecin généraliste ou spécialiste.
Donc l'enquête porte sur la vision de l'accès aux soins en santé mentale, la place du numérique pour favoriser l'accès et les idées reçues sur le rôle des psychologues et psychiatres auprès des 18-34 ans. C'est bien ça ?
Ouais, c'est ça, exactement.
Alors, selon cette étude, quels sont les premiers freins qui dissuadent de consulter ?
Alors, selon l'enquête qui a été menée au niveau des jeunes Français, donc effectivement, il y a plusieurs freins. Le premier frein, en fait, c'est le tarif. C'est le premier frein chez à peu près 58% des personnes. L'autre frein, c'est les doutes sur l'efficacité des thérapies et aussi sur la peur de se livrer. C'est à peu près 32% des interrogés. Ensuite, comme frein, il y a la peur du manque d'échange avec le spécialiste. On est autour de 25%. Et ensuite, arrive la méconnaissance du rôle des praticiens, ne pas savoir qui fait quoi. Là, on est sur 21% des personnes. Et aussi, le jugement de l'entourage. Ça, c'est très important. Il y a quasiment une personne sur cinq qui a peur d'être jugée concernant la prise en charge vis-à-vis de la santé mentale.
Et comment est-ce qu'on peut lever ces freins ?
Alors le tarif. Alors le tarif, ce qui se passe, c'est que chez l'IVI, on a plusieurs personnes qui vont intervenir. On va avoir des médecins généralistes, des psychiatres et des psychologues. Donc les patients qui vont consulter chez l'IVI vont être informés au niveau des tarifs et des modes de remboursement. Ça peut dépendre selon les secteurs, les mutuelles. On s'inscrit pas, nous, dans le parcours de santé mon psy. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que donc le dispositif qui a été mis en place, il a ses avantages et ses inconvénients. Le principal avantage, c'est clairement qu'il est remboursé. Mais le dispositif, il nécessite une évaluation présentielle que nous, forcément, on peut pas faire vu qu'on est en téléconsultation. Donc nous, on est hors jeu pour ce dispositif. On aurait clairement adoré faire partie de ce dispositif et on a un peu râlé hein, quand on a vu qu'il fallait une évaluation présentielle, un parcours un petit peu complexe. Mais bon. Il va bénéficier à des patients, donc c'est super. Et tant mieux qu'il y ait plein de patients qui puissent être intégralement remboursés. Nous, on est hors jeu là-dessus. Bon, maintenant, comment on va s'adapter, sachant qu'on est hors jeu ? On va essayer de s'adapter en essayant de faire au mieux une prise en charge personnalisée pour le patient. Et donc sur l'outil, le patient qui est en souffrance, il pourra consulter, s'il le désire, psychologue d'emblée. Ou médecin généraliste puis psychiatre, en sachant que les médecins généralistes, ils interviennent beaucoup sur la santé mentale. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie de spécifier, mais les médecins généralistes, c'est leur boulot, la santé mentale. Ils font ce qu'on appelle, là, depuis des dizaines d'années, ce qu'on appelle la psychothérapie de soutien. Ça représente à peu près 10 à 15 % des consultations de médecine générale. Donc là, on est sur de la consultation qui va être remboursée. L'étudiant, lui, s'il désire accéder directement à un psychologue, il sera parfois remboursé par des mutuelles. Et il faut savoir aussi que les psychologues et les gens qui vont prendre en charge les étudiants, bien entendu, qu'ils vont tenir compte de ce facteur-là. Et c'est l'intérêt aussi des psychothérapies qui sont plébiscitées chez nous, c'est-à-dire les thérapies brèves. Partir sur un an de thérapie toutes les semaines à 60 €, il n'y a pas grand monde qui peut se payer ça. En revanche, il y a des thérapies brèves qui peuvent être mises en place pour pas mal d'indications. La gestion du stress, la gestion de l'anxiété, la gestion des émotions. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, selon moi, c'est que les psychologues, avec leur psychothérapie, ils peuvent apprendre aux patients, aux jeunes patients, aux étudiants, des techniques de psychothérapie qu'ils peuvent pratiquer par eux-mêmes, qu'on appelle le self-help. Par exemple, la gestion du stress ou de l'anxiété, on peut vous apprendre la technique de la respiration contrôlée. Et c'est des choses qui peuvent aider à justement traverser des épisodes difficiles. Après, clairement, s'il faut aller en profondeur, eh bien, il faudra aller en profondeur étape par étape. Mais le but, voilà, c'est d'essayer de s'adapter effectivement à la complexité des prises en charge. Mais voilà, pour l'instant, on est en train d'écrire les psychothérapies et l'intervention des psychologues chez Livy, mais on doit clairement s'adapter aux capacités financières des étudiants qui sont clairement des fois pas évidentes du tout. Mais on a des médecins généralistes qui réalisent des consultations et qui sont remboursés. C'est des médecins généralistes qui ont une appétence pour la santé mentale et qui ont été formés pour ça. On a des psychiatres aussi avec des consultations remboursées. Et concernant les psychologues, certaines mutuelles vont rembourser les consultations, d'une part, et d'autre part, on a des prises en charge qui vont se faire sur le mode de thérapie brève. Il ne s'agit pas de partir sur des prises en charge au long cours, sur des années. Nous, on va s'occuper des patients en privilégiant les thérapies qui sont reconnues scientifiquement, mais qui vont s'inscrire sur une courte durée, ce qu'on appelle les thérapies brèves. Donc ça, c'est la première chose. Donc les patients, ils sont informés de ça. Ensuite, sur les doutes concernant l'efficacité des thérapies, il en existe effectivement des dizaines et des dizaines de thérapies. On va utiliser les thérapies qui sont prouvées scientifiquement et les patients vont pouvoir bénéficier de documents pédagogiques, d'informations. Le but aussi, c'est qu'ils puissent s'aider eux-mêmes. Moi, je crois beaucoup en la self-thérapie, c'est-à-dire pouvoir mettre en place, enfin pouvoir apprendre et mettre en place ensuite des choses pour soi, pour aller mieux, en fait. De la même façon que quand on va voir un kiné, il va nous donner quelques exercices à faire pour faire du gainage ou des étirements, on va pouvoir faire à peu près la même chose sur des thérapies. C'est des cas, par exemple, avec l'auto-hypnose, la pleine conscience, et il y a des choses qu'on peut apprendre et utiliser par soi-même. Concernant la peur de se livrer, le fait d'être chez soi, d'être dans un environnement rassurant, ça facilite la tâche, en fait. On est dans un environnement familier, on peut téléconsulter de chez soi, et c'est pas la même chose que de devoir se déplacer dans certains endroits. La peur du manque d'échange avec le spécialiste, ça aussi, ça fait partie des freins. Alors ça, globalement, ça va se faire au fur et à mesure. Et ça, nous, voilà, il n'y a pas de grand changement par rapport au présentiel. Le jugement vis-à-vis de l'entourage, ça existera toujours. On a toujours l'impression d'être jugé, et la téléconsultation ne va pas forcément apporter quelque chose. En revanche, concernant la méconnaissance du rôle des praticiens, et là, on est sur une personne sur cinq qui a peur de ne pas vraiment connaître le rôle des praticiens. Sur l'application, on explique clairement à nos patients ce que font les praticiens. Que peut faire un médecin généraliste? Que peut faire un psychologue? Que peut faire un psychiatre? Et donc, toutes ces informations, elles vont permettre finalement d'accompagner le patient.
Plus d'un jeune Français sur deux est favorable au développement de la téléconsultation. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous?
Alors, le développement de la téléconsultation, actuellement, c'est forcément une bonne chose, le développement de la téléconsultation. Bon, d'une part, pour beaucoup de motifs, il y a des études qui montrent, avec des indicateurs très sérieux, que la téléconsultation, elle fait parfois aussi bien que le présentiel. Donc, il ne s'agit pas de remplacer le présentiel par la téléconsultation. Il y a beaucoup de situations où la téléconsultation, elle ne va pas être adaptée. Mais la téléconsultation, elle doit se faire avec des recommandations bien précises et on doit des fois se dire bon, la téléconsultation n'est pas adaptée. Mais il y a énormément de domaines dans lesquels la téléconsultation, elle est adaptée. Et il y a des patients ou il y a des personnes qui vont se trouver sur des secteurs où il n'y a vraiment pas d'accès à un médecin généraliste, à un médecin traitant, à un spécialiste en temps et en heure. Et la tendance va continuer à s'affirmer. Donc finalement, on est dans une situation où la téléconsultation peut être parfois le seul accès à un professionnel de santé. Donc si cette téléconsultation, elle est faite avec rigueur et sérieux, elle peut clairement apporter beaucoup de choses à beaucoup de personnes.
Est-ce qu'on peut faire un lien entre ce développement de la téléconsultation et la crise sanitaire qu'on vient de vivre?
Oui, Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la crise sanitaire, il y a eu une explosion de la téléconsultation. Il y a eu énormément de prises en charge qui se sont faites en visio, en téléconsultation. Et cette prise en charge, avant la crise sanitaire, elle était marginale. Donc, il y a une sorte d'habitude qui s'est mise en place concernant la téléconsultation. Donc, la crise sanitaire, clairement, elle a catalysé, elle a favorisé le développement de la téléconsultation.
L'enquête porte également sur les idées reçues sur le rôle des psychologues et des psychiatres. Alors, quelles idées reçues on a pu retrouver ?
Oui, c'est ça. C'est que l'IDI s'est intéressé aussi aux idées reçues. Et effectivement, une des idées reçues, c'est de croire que consulter un médecin généraliste, c'est une étape indispensable pour consulter un psychologue. Ça, c'est une des principales idées reçues. Ça concerne à peu près 53% des personnes. Ensuite, une autre idée reçue, c'est que les psychologues peuvent prescrire des médicaments et qu'ils sont des docteurs. En fait, la profession de psychologue, c'est différent. Les psychologues ne sont pas des médecins. Et les psychologues, donc, ne prescrivent pas de traitement, ne prescrivent pas de médicaments. Donc ça, c'était une idée reçue chez 28% des personnes interrogées. Et alors, autre idée reçue qui est intéressante, c'est que 35% des personnes pensent que le psychiatre prescrit systématiquement des médicaments, ce qui est faux. C'est un abus de langage. Effectivement, les psychiatres sont amenés à prescrire des médicaments, mais pas tout le temps, et ils peuvent aussi prescrire des thérapies non médicamenteuses, comme des psychothérapies.
Comment on peut y remédier à ces idées reçues ?
Déjà, en concernant la consultation par le médecin généraliste, non, c'est pas indispensable. C'est-à-dire que chaque personne peut consulter, si elle le désire, directement un psychologue. Pour des motifs tels que l'anxiété, des problèmes d'estime de soi, de gestion de ses émotions. Donc, il y a toujours possibilité de consulter un psychologue directement sans avoir accès à un médecin généraliste ou un psychiatre. Concernant la prise en charge par les psychologues, nous, on explique clairement que le psychologue, lui, il est plus un expert du comportement et des émotions. Et en fait, il va accompagner le patient avec différentes thérapies. Quoi, il va accompagner le patient avec différentes thérapies. Et concernant la prescription de médicaments par le psychiatre, effectivement, les psychiatres ne vont pas forcément prescrire des médicaments. Nous, on leur explique que le psychiatre peut être amené à prescrire des médicaments dans certaines situations, mais il peut être amené à prescrire des changements concernant l'hygiène de vie et aussi des psychothérapies.
Merci beaucoup. C'était le docteur César Ansel Hansen venu réagir à propos de l'enquête de l'IVI sur la santé mentale. Salut.